France Culture.
Et un débat qui a d'ores et déjà commencé dans ce studio. Il faudrait en isoler entre 600 et 1000 selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin. De qui parlons-nous? Des plus grands trafiquants de drogue de France qui, pour certains, continuent leur trafic depuis leur cellule. Le 6 mars dernier, le garde des Sceaux a déclaré que deux prisons françaises, celle de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne et celle de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, avaient été choisies pour les incarcérer. Mais ce régime spécifique peut-il être efficace ou s'agit-il d'un affichage politique? Et en quoi serait-il plus efficace justement que ces quartiers spécifiques qui existent déjà actuellement? Pour en débattre, deux invités ce soir. Dominique Simoneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et face à vous, Valérie Dervieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, présidente de chambre, déléguée générale du syndicat Unité Magistrat SNM. FO, merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du Soir.
Vivons un moment historique du point de vue de ce qu'on appelle l'état de la menace. Il n'a jamais été aussi élevé et c'est dû à des phénomènes en amont de la France, une augmentation de la production de drogue et l'accélération de leur circulation en Europe et sur le territoire national.
Ce sont des gens très dangereux, capables de passer à l'acte et d'assassiner des fonctionnaires de l'État, de continuer leur point de deal. Et est-ce que c'est normal, quand on est dans une prison à Marseille, de pouvoir continuer à commander des assassinats de gamins de 14 ans?
Il faut qu'on en parle, du statut des prisons de haute sécurité qu'on essaye de créer, que M. Darmanin a dit qu'il allait loger une centaine de narcotrafiquants dans ces prisons de haute sécurité. On va créer un statut de la torture blanche.
N'oublions pas que, en fait, tous les gens qui font ces trafics, ils le font motivés par l'argent. Et donc, les principaux chefs étant arrêtés, immédiatement, ce business-là sera repris par d'autres et donc on risque de devoir incarcérer non pas 100 ou 200 personnes, mais très vite 1000 ou 2000.
Un débat posé et pour rappel, les députés ont approuvé jeudi 20 mars dans l'hémicycle l'une des mesures les plus décriées du texte visant à lutter contre le narcotrafic, mesure qui prévoit la création d'un nouveau régime carcéral d'isolement pour les plus gros trafiquants. Valérie Dervieux, est-ce que selon vous, cette mesure est nécessaire ?
Oui, selon moi, cette mesure est nécessaire parce que l'état des prisons et les conditions d'incarcération des personnes qui représentent le haut du spectre, ainsi que l'a parfaitement montré la commission d'enquête sur le narcotrafic qui a été diligentée par le Sénat, montre qu'il faut des conditions d'incarcération qui empêchent les contacts avec l'extérieur et qui empêche aussi que ces personnes créent à l'intérieur de la détention les conditions de nouveaux trafics, les conditions aussi de la violence, que ce soit la violence contre les co-détenus, entre co-détenus, ou la violence vis-à-vis des surveillants. Bien évidemment, on a tous à l'esprit les conditions de l'évasion de M. Amra, qui a été interpellé grâce au travail incroyable de nos forces de sécurité intérieure.
En Roumanie, il y a quelques semaines.
Dans le cadre d'une coopération internationale et des conditions dans lesquelles il s'est évadé avec des surveillants de prison qui ont été assassinés, d'autres qui ont été grièvement blessés, et les questions qui en sont découlées, c'est-à-dire comment on peut améliorer la sécurisation de la détention, la sécurisation des extractions, et puis surtout comment on peut faire en sorte que la prison soit un véritable lieu qui assure l'interruption des trafics de ces personnes.
Alors on va revenir sur tous ces arguments dans le détail, mais Dominique Simoneau, votre point de vue sur ces nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée?
Bien, à mon tour, donc je ne vais pas pleurer parce que des énormes criminels ou des énormes narcotrafiquants n'ont plus de portable en prison. Ce qui par ailleurs démontre l'état de nos prisons aujourd'hui. Enfin, nous on prône qu'il y ait un portable pour les prisonniers qui soit vérifiés, contrôlés, bloqués pour certaines choses, mais enfin là, c'est absolument normal. Après, les conditions de l'isolement, c'est ça que je serais curieuse de connaître en réalité, concrètement. Parce que vous savez que l'isolement total, c'est impossible d'imposer ça à un être humain. D'ailleurs, il y a une note de la chancellerie qui remonte à quelques années et qui s'inquiétait même de l'isolement actuel, en disant attention aux détenus isolés, faites-les un maximum parler avec les surveillants, parce que sinon, ils vont devenir fous. Parce que l'isolement total crée la folie, c'est sûr. Après, moi, je vous dis, je demande à voir les conditions dans lesquelles ils seront privés de courrier, de téléphone. Enfin, c'est, je crois que c'est un coup de fil tous les... 2 heures par semaine de coup de fil.
2 heures par semaine de coup de fil aujourd'hui, une diminution extrêmement forte de voilà. La possibilité de téléphoner. Justement, sur ces conditions quotidiennes de détention, conditions drastiques, hein, Valérie Dervieux, il faut nous les décrire. Qu'est-ce que prévoit aujourd'hui, en l'état, le projet de loi ?
Alors, le projet de loi, tel qu'il a été adopté maintenant, prévoit donc une limitation des coûts de téléphone à, me semble-t-il, 2 heures 3 fois par semaine.
2 heures par semaine, moi, c'est l'information que j'ai.
Oui, il prévoit également
C'est 2 heures de jour.
Oui, 2 heures de jour, oui, c'est ça, et non pas 2 heures par semaine. Il prévoit également les conditions des parloirs ne permettent plus de rapprochement physique, donc une séparation, sauf exception adaptée par l'administration pénitentiaire, sauf contact avec des enfants de moins de 12 ans. Il prévoit également des fouilles systématiques quand la personne a pu avoir un contact avec un tiers dès lors que ce contact n'a pu être surveillé par les gardiens, sachant que le Conseil d'État a préconisé, et ça a été admis, que cela devait faire un projet, l'objet d'un projet, d'un décret d'application pour permettre l'exercice des droits de la défense et éventuellement l'exercice d'autres droits, comme celui, par exemple, pour la contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté, d'avoir des contacts avec les détenus. Il prévoit également l'impossibilité de bénéficier d'unités de vie familiale. Vous savez, c'est sur ces lieux où les détenus peuvent vivre plusieurs jours avec leur famille en toute intimité. Il prévoit effectivement un encellulement individuel qui n'est pas l'isolement, puisqu'on parle d'isolement, ce n'est pas l'isolement. D'ailleurs, le principe de l'encellulement individuel est un principe qui existe longtemps dans notre droit et qui, malheureusement, ne peut pas être appliqué, notamment dans les maisons d'arrêt, non pas dans les maisons pour peine. Et il prévoit également que les sorties, puisque ce n'est pas un isolement, se fassent en petits groupes et que les activités, puisque ce n'est pas un empêchement d'avoir des activités sociales ou d'éducation, se fassent dans des conditions adaptées et je suppose aussi en groupe plus réduit qu'en régime général habituel. Donc toutes ces mesures, en fait, visent à préserver, empêcher le plus possible les contacts avec l'extérieur pour empêcher donc la poursuite de l'activité criminelle, les éventuels projets d'évasion, les éventuelles tentatives de corruption, puisqu'il est prévu aussi que les équipes changent, et à préserver aussi le reste de la détention, de la violence qui peut et des trafics qui peuvent être initiés par ces personnes. On discute souvent avec le syndicat direction pénitentiaire de ces sujets. Et en tant que magistrat, moi, j'ai entendu des histoires, des anecdotes. Hein. Il y avait par exemple un détenu qui était passé souvent en disciplinaire pour des violences avec des autres détenus. Et puis, tout d'un coup, ça s'est arrêté. On lui a demandé pourquoi. Et il a dit parce qu'on ne paye plus pour le faire. Et donc, moi, j'appelle aussi l'attention sur le fait, sur la nécessité de penser aux autres détenus qui subissent aussi cette pression, je ne veux pas vous rappeler les films Borgo, Le Prophète, etc., et qui doivent pouvoir aussi vivre leur détention, alors dans les conditions qu'on va nous décrire tout à l'heure, mais en dehors aussi de cette violence.
Dominique Simonneau, l'un des arguments qui est avancé par le ministre de la Justice, c'est de dire, dans le fond, il y a beaucoup de grands narcotrafiquants qui, aujourd'hui, poursuivent leur travail, poursuivent leur business à l'intérieur même des prisons. Et cette mesure, elle permettrait de les en empêcher. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, du point de vue de l'efficacité cette fois-ci ?
Sûrement, ça les en empêchera. Pour le moment, c'est vrai, la surpopulation est telle dans les prisons françaises qu'il y a tous les trafics. Je peux vous dire, vous marchez dans les coursives, si les magistrats allaient plus souvent en prison, malheureusement, ils n'y vont pas assez pour voir là où ils envoient tant de monde. Eh bien, il verrait, il serait entouré, comme moi, d'un halo de fumée, de cannabis. Il verrait les détenus, avec tous les détenus ont des portables, ou une carte SIM qui peuvent entrer dans le portable du voisin. Mais tout ça, C'est une petite société, la prison, c'est un peu la loi de la jungle, la loi du caïda, la loi du plus fort. Donc, il y a ceux qui subissent parce qu'ils sont pauvres, ou qu'ils sont faibles, ou qu'ils ont peur. Parce que, vous savez, il y a des détenus tellement terrifiés qu'ils vont même pas en promenade. Et donc, quand on vous dit, ils passent 22 heures sur 24 en cellule à 3 enfermés, au milieu des cafards, des rats et des punaises de lit... Eh bien, en fait, il y en a qui passent 24 heures sur 24 parce qu'ils refusent d'aller en promenade tellement ils ont peur et ils savent que les surveillants eux-mêmes auront peur d'intervenir en cas de rixe. C'est effrayant. Enfin, c'est pas des conditions dans lesquelles on ramène des gens à la vie normale dehors. Parce que je signale quand même que tous les détenus sont amenés à sortir. Et donc, autant qu'ils sortent dans les meilleures conditions. Alors, moi, ce que je demande à voir dans ces nouvelles prisons, qui sont pas nouvelles d'ailleurs, parce que Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil sont déjà deux prisons extrêmement sécurisées. Eh bien, je demande à voir comment ça va s'appliquer. Concrètement, je vous dis, je suis inquiète pour les fouilles, parce que, mine de rien, ça a beau être des gros narcotrafiquants, ce sont des êtres humains, on va pas les fouiller à tour de bras. La fouille, c'est très humiliant. Je vois pas d'ailleurs avec qui il rentrera en contact, étant donné les conditions, mais enfin, on verra. Je rappelle qu'on rajoute un hygiaphone au parloir qui avait été supprimé par Robert Badinter. Mais bon, voilà. Voilà ce qui est inquiétant avec cet isolement. Alors, Valérie Dervieux nous dit, ce ne sera pas un véritable isolement. Je demande à le voir aussi. Peut-être que s'ils font des promenades à 4 ou 5, avec interdiction de se parler, j'ai cru lire, c'est venu dans les débats. Bon, on voulait pratiquement leur interdire de se parler, mais bon. Voilà. C'est, si vous voulez, le ministre de la Justice a dit, c'est une véritable révolution carcérale. Bon, bah, voyons. Mais moi, j'aimerais qu'il entame l'autre révolution carcérale, et la plus urgente, à mon avis, à savoir une décélération des incarcérations, faire sortir des gens.
On y reviendra, mais avant cela, je voudrais remettre peut-être la lumière sur les quartiers de haute sécurité, hein, ces QHS qui avaient été abolis en 1982, justement par Robert Badinter. Quand on regarde l'histoire, quand on regarde justement ces QHS qui avaient été abolis, est-ce que c'est une véritable révolution carcérale à laquelle on assiste, ou bien au fond, on remet en place des choses qui existaient déjà et qui avaient été supprimées d'ailleurs parce que leur efficacité était douteuse à l'époque selon plusieurs rapports?
Comparaison n'est pas raison. Le QHS a été créé en 75, supprimé en 1982. On n'est pas en 1982, on est en 2025. Donc un petit peu d'eau a coulé sous les ponts. Il y a un rapport très récent de 2025 d'Europol qui révèle une mutation profonde du crime organisé avec trois tendances clés. Un impact déstabilisant, infiltration des institutions, corruption, violence. Un crime digitalisé avec toutes les possibilités effectivement d'utiliser l'électronique maintenant. L'IA, l'intelligence artificielle comme accélérateur. Et sept menaces prioritaires parmi lesquelles la drogue. On est dans une autre époque. Bien évidemment qu'il n'est pas question ici de porter atteinte au statut de Robert Badinter, qui reste un exemple et qui, par son action et par ce qu'il a fait dans l'histoire et par ce qu'il est et par ce qu'il représente, mais il faut aujourd'hui prendre en considération l'état de la menace. Et l'état de la menace, une fois de plus, elle nous est apparue, elle nous a sauté aux yeux avec ses auditions lors de la commission sénatoriale sur le narcotrafic. On a entendu des professionnels, on a entendu des policiers, des magistrats, des responsables des investigations, des avocats aujourd'hui aussi. Et ce qui ressort de ces auditions, c'est la nécessité de préserver la démocratie. Parce que l'état de droit, c'est aussi protéger les gens, et c'est aussi protéger les gens qui sont en détention, et c'est aussi protéger les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui y travaillent. Donc, la comparaison avec les QHS, pour des raisons de contexte, ne me paraît pas pertinente. Et la proposition qui est faite, bien évidemment, sous réserve de ce qui vient d'être indiqué par Dominique Simoneau. Pour l'instant, on a un texte, on va avoir des décrets d'application, on va voir comment ça va s'appliquer en vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une décision d'administrative, donc ministérielle. Pourquoi ministérielle? Parce que on veut préserver les directeurs de prison. Je tiens à vous rappeler que les directeurs des Baumettes ont été menacés de mort, ils ont dû être changés de lieu de travail. Donc une décision ministérielle prise pour une durée de 2 ans renouvelable et surtout susceptible de recours. Donc je ne doute pas que les avocats des personnes qui seront détenues dans ces conditions feront tous les recours qui vont bien. Et je ne doute pas non plus qu'on ira relire les décisions de la CEDH qui ont validé les conditions de détention prévues par l'article 41 bis de la loi italienne qui prévoit effectivement un régime de détention qui a servi de référence au ministre de la Justice puisqu'il allait visiter ces quartiers et que l'article 41 bis est en quelque sorte une référence qui concerne là-bas la mafia et qui concernerait ici les narcotrafiquants du haut du spectre.
On prend beaucoup, Dominique Simoneau, cet exemple italien, cet article 41 bis qui, dans les années 90, a permis effectivement d'incarcérer dans des conditions drastiques, bien plus drastiques que les personnes de droit commun, justement. Est-ce que, là encore, l'efficacité italienne a été démontrée? On dit que oui, pourquoi est-ce que ce serait différent en France? Alors effectivement, en Italie, il s'agit d'incarcérer les représentants de la mafia. Ici, en France, c'est plutôt pour le narcotrafic.
D'ailleurs, en Italie, le 41 bis a créé une petite guerre à l'extérieur parce que, comme ceux qui étaient enfermés dans ces conditions-là ne pouvaient plus communiquer avec l'extérieur, eh ben, à l'extérieur, d'autres chefs ont voulu prendre leur place et il y a eu des guerres assez violentes, hein. Dont j'aimerais pas les revoir en France ou les voir en France. Mais voilà. Donc moi, ce que disait Valérie est très vrai. Il va falloir examiner les facilités de recours offertes, le temps que ça va durer, cet isolement, etc. Et autrement, efficace. Ça me fait un peu mal au cœur de le dire. Peut-être que ce sera efficace. Mal au cœur parce que j'ai toujours du mal à me faire à l'idée que on va enfermer de cette façon des êtres humains. Mais c'est vrai que parmi eux, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au début j'étais 100. Ils sont passés à 600, maintenant on est à 1000.
Entre 600 et 1000 aujourd'hui, absolument.
Oui, ça me paraît beaucoup.
En fait,
Je vous en prie, si vous voulez répondre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, le projet qui a été proposé et soumis à l'avis du Conseil d'État prévoyait que ce soit beaucoup plus large comme domaine d'application. Et puis le Conseil d'État a dit non, ça doit être limité justement à des personnes qui font partie de ce haut du spectre du narcotrafic et qui donc ont une dangerosité avérée et la possibilité de lien avec l'extérieur. Donc au début, on a dit 100 pour les personnes qui seraient incarcérées dans ces conditions à partir de juin-juillet. Ensuite, on a dit un maximum, c'est le ministre qui a dit, c'est un maximum de 600-800. Donc en fait, je pense qu'on restera très attentif pour savoir exactement quel est le domaine d'application et les avocats, les institutions, les services de Dominique Simoneau seront très attentifs pour savoir dans quelles conditions ça s'applique et à qui ça s'applique. Et les recours et la proportionnalité qui relèvent des juridictions administratives et ils sont très attentifs à ça, montreront que dans quelles conditions c'est appliqué et il y aura une jurisprudence bien évidemment qui en découlera.
La question que vous soulevez, Valérie Dervieux, c'est aussi comment on choisira ces 100, 600, 1000 individus dans le fond, celles et ceux qui sont d'ores et déjà incarcérés. Comment est-ce qu'on va sélectionner parmi eux ceux qui devront entrer dans ces quartiers spécifiques?
Alors si juges. Si j'ai bien compris, c'est l'administration pénitentiaire qui fera des préconisations, les magistrats qui pourront faire des préconisations et toute décision sera prise après avis du juge de l'application des peines si c'est un détenu condamné ou après avis du juge d'instruction si c'est une personne qui est mise en examen, placée en détention provisoire.
Dominique Simoneau, votre point de vue sur cette procédure?
Moi, du moment qu'il y a des recours, ce qu'il faut absolument, c'est qu'il existe des recours devant des magistrats indépendants qui statuent pour savoir ce qu'il en est. Et ce que je voudrais bien voir, c'est tous les recours qui seront mis en place pour que ces gens puissent quand même, c'est leur droit, faire appel à un avocat et demander de sortir de ce système. Mais je pense que
ça sera intéressant d'ailleurs de voir si la loi sur les conditions indignes de détention trouvera à s'appliquer ou pas.
La voix du député LFI, Antoine Léaumont, qui s'exprime sur la chaîne parlementaire, il explique justement peut-être ce qui est un manque selon lui dans ce projet de loi.
Moi j'estime que ces prisons, elles font courir un danger au personnel pénitentiaire, qui est un danger majeur. Pourquoi ? Parce que, quand j'en ai parlé avec M. Darmanin, qui m'a reçu au ministère de la Justice, il m'a dit, non, mais on va travailler pour faire en sorte d'éviter les mécanismes corruptifs à l'intérieur de la prison. Et j'ai posé une question à laquelle j'ai pas eu de réponse. J'ai demandé, à l'extérieur de la prison, il y a quoi qui est prévu exactement ? C'est-à-dire, les narcotrafiquants, il faut voir leur comportement. La corruption, elle passe pas seulement par l'argent, elle passe par la menace sur eux et la menace sur les familles. Donc, qu'est-ce qui va être prévu pour que, quand les personnels pénitentiaires vont sortir de la prison, retourner chez eux, qu'est-ce qui va être prévu pour les protéger ? Il faut comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est concentrer au même endroit une capacité corruptive, qui est une capacité corruptive gigantesque.
Dominique Simonneau.
Bien, les surveillants, ils sont soumis, oui, à de la corruption, c'est sûr. Parce qu'il y a des choses qui rentrent en prison qui ne peuvent rentrer que comme ça. Mais à la corruption et effectivement à la menace du style, ça va ta femme, elle travaille toujours au même endroit. Et ta fille, toujours à la même école, tout va bien. Des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est effrayant. Donc on en vient à faire ce que les détenus réclament finalement. Alors déjà, les équipes vont tourner. Et ensuite, j'ai vu que les surveillants seront anonymes. Ils n'auront pas de nom. Pour éviter justement... Enfin, mais enfin, on les verra bien sortir de la prison. Hein. On les verra bien... Je sais pas du tout comment ça va se passer, ça. Parce que il est vrai que tout ne rentre pas en prison par des drones et par des lancers. Il y a des choses qui rentrent aussi, oui, par la corruption et par la menace. Mais la menace, c'est terrible parce que vous donnez un paquet de cigarettes, mais vous êtes cuit. C'est fini après.
Valérie Dervieux, pourquoi ne pas choisir justement ces criminels extrêmement dangereux en matière de narcotrafic, de les dispatcher dans plusieurs prisons et de les isoler dans des prisons différentes ? C'est aussi un argument qui est parfois donné, plutôt que de les concentrer dans des établissements pas pénitentiaires. J'allais dire deux, c'est peut-être pas assez.
Alors je vais d'abord essayer de répondre à l'argument du député LFI. C'est quand même un petit peu paradoxal de dire que c'est pire de choisir un régime qui essaye de préserver les surveillants de la menace en justement anonymisant et isolant ces détenus de l'extérieur, que de laisser l'état des lieux qui, lui, est particulièrement criminogène. Je vous rappelle que, je crois que c'est hier ou avant-hier, encore des véhicules de surveillants ont été brûlés sur le parking d'un lieu de détention. Donc là, j'avoue que l'argument m'échappe un peu. En ce qui concerne la problématique qu'on avait déjà eue d'ailleurs sur les personnes poursuivies pour islamisme radical ou terrorisme islamiste, la question, elle est réglée par une question d'organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un endroit où on organise un régime spécifique, c'est certainement plus simple d'avoir une organisation, un lieu, un bâtiment. L'article 41 bis de la loi italienne prévoyait des prisons dédiées. On a abandonné ici l'idée d'une prison dédiée parce que de toute façon on n'a pas les moyens de construire des prisons. Ça, on l'a bien compris. On a peut-être le moyen d'avoir des organisations qui permettent justement cette sécurisation, cette imperméabilisation et en même temps la poursuite d'activités qui rendent la détention possible. Donc ça me paraît un choix qui est judicieux par rapport aux menaces et puis aussi par rapport à la spécificité de ces relations avec l'extérieur des narcotrafiquants du haut du spectre.
Dominique Simonneau.
On a des brouilleurs dans les prisons, mais ils ne marchent pas du tout.
Non, ils marchent pas.
Comment ça se fait qu'ils ne marchent pas d'ailleurs,
ces brouilleurs ? Ils ne marchent pas parce qu'ils ont été achetés.
Technologiquement ?
Oui, ils ont été achetés très cher pour la génération 4G, mais les détenus sont passés à la 5G, comme nous tous. Et donc ça ne brouille pas. Et moi, quand je vais en prison, j'ai le droit d'avoir mon portable. Je suis sur une coursive au troisième. Je descends d'un étage et j'entends dong, dong, dong. C'est tous mes messages qui tombent.
Tous mes messages qui arrivent.
Oui. Donc, puis, comme je vous ai dit, comme on vous l'a dit, les prisons grouillent de portables. Et d'ailleurs, c'est normal, étant donné le prix du téléphone en prison qui est 10 à 11 fois plus cher que le téléphone dehors, on comprend que les détenus... Et puis téléphoner devant deux autres personnes qui sont pas forcément vos meilleurs copains, et raconter ses histoires, son affaire avec son avocat, parler à sa femme, parler à ses enfants, voilà, et pour ça, il y a des portables, oui.
La voix du ministre Gérald Darmanin, il s'exprimait le vendredi 7 mars à Vendin-le-Vieil.
J'ai rencontré bien évidemment les agents pénitentiaires directement pour leur expliquer le contenu de ma décision. leur expliquer le nouveau régime de détention qui va s'appliquer avec cette prison, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une prison, mais d'un nouveau régime de détention, beaucoup plus strict, qui va beaucoup les aider, la visio généralisée par exemple, évitant ainsi les extractions de détenus, le fait qu'ils puissent peu téléphoner, avoir des conditions de fouille extrêmement drastiques, des travaux qui vont permettre d'isoler totalement la prison ici. Et puis évidemment, discuter socialement avec eux de ce changement très important. Ils vont faire partie de l'élite de l'administration pénitentiaire. Cette prison est extrêmement originale. C'est un changement radical dans la façon de fonctionner de l'administration pénitentiaire, puisque vous aurez compris que ce n'est plus simplement des détenus pour peine qui auront été condamnés définitivement qui seront ici, mais aussi des gens en détention provisoire, comme c'était le cas de M. Amra lorsqu'il était en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Evreux.
Valérie Dervieux, pourquoi ces deux prisons spécifiques, Condé-sur-Sarthe dans l'Orne et Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, qu'est-ce qu'elles ont elles-mêmes de spécifiques ?
Parce que ce sont des prisons qui sont déjà sécurisées et je pense que les travaux, je crois que c'est 2 millions qui a été investi, sont peut-être moindres que si on avait fait ça dans d'autres lieux de détention. Donc tout simplement pour des raisons pratico-pratiques et puis aussi de rapidité pour une mise en œuvre plus rapide. Donc si j'ai bien compris, dès cet été, les premières affectations devraient avoir lieu.
Que dit, comment réagit plutôt le personnel pénitentiaire face à ces nouvelles mesures ? On entendait le ministre de la Justice qui expliquait que beaucoup seraient désormais considérés comme l'élite de la pénitentiaire. Est-ce qu'ils le seront effectivement ? Est-ce que c'est aussi un poste, des postes qui sont attendus par eux ?
Alors, je ne sais pas ce que c'est l'élite de l'administration pénitentiaire. Tous les surveillants, pour moi, sont l'élite de notre administration pénitentiaire parce que c'est un métier extrêmement difficile qui nécessite de l'humanité, de la fermeté, de garder toujours une attention particulière à ce qui se passe. Je pense que c'est un métier extrêmement complexe qui nécessite de très grandes qualités. Et je rends hommage d'ailleurs à tous mes collègues de l'administration pénitentiaire, j'en profite. Ensuite, sur ceux qui seront affectés là, donc effectivement, ce seront des conditions, préservation de l'anonymat, changement d'affectation tous les deux mois, si j'ai bien compris, qui nécessiteront encore de leur part des qualités supplémentaires. Donc probablement une formation dédiée, probablement une doctrine dédiée, et le sentiment d'être encore plus utile que d'habitude, puisqu'on est face à des personnes qui ont des moyens considérable et dont l'objectif peut être de les déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Donc un gros effort de l'administration pénitentiaire pour ses personnels et une grande compétence pour ses personnels pénitentiaires, ce serait une élite si vous voulez fonctionnelle, mais comme le disait tout à l'heure Dominique Simoneau, je crois que dans la détention générale, on a aussi des surveillants qui sont des élites.
Dominique Simoneau, une comparaison qui intervient beaucoup dans le débat public pour légitimer justement la création de ces quartiers de haute sécurité, c'est la comparaison entre narcotrafic et terrorisme. Ce sont deux régimes singuliers, deux régimes particuliers. Est-ce que le rapprochement de l'un et l'autre, l'isolement que ces deux régimes induisent, vous paraît justifié ?
Ben, ça me paraît, certainement c'est justifié pour un temps, mais quel temps ? C'est ça qui est très inquiétant dans cette histoire. Alors là, c'était le ministre avait prévu 4 ans d'abord d'isolement, vous vous rendez compte, 4 ans. C'est tombé à 2 ans par amendement. Et il y aura un recours. Un avocat sera prévu. Et ça a été un amendement d'un député, je crois, qui a permis la présence de l'avocat. Voilà. Mais en ce qui concerne les surveillants, moi, on a fait analyser par les médecins des prisons, qui travaillent en prison, le risque de décompensation psychique qui pèse sur les surveillants. Il est énorme, parce que leurs conditions de travail sont épouvantables. Il manque 6000 surveillants en France. Vous vous rendez compte ? Alors qu'on a une population carcérale qui n'a jamais été aussi énorme et n'a jamais manqué autant de surveillants. Donc là, on va créer des endroits où ils seront un par cellule, où il y aura assez de surveillants, où il y aura des surveillants spécialement formés, comme vous l'avez dit, spécialement formés contre la corruption, spécialement formés pour la violence. J'aimerais bien que ces formations, tout le monde puisse en bénéficier. Et surtout que tous les surveillants puissent bénéficier, comme les détenus, de conditions, pas comme ça, isolées, mais de un par cellule. Est-ce que c'est la mer à boire ? Est-ce que c'est effrayant ? Est-ce que c'est honteux de demander qu'il n'y ait pas plus de détenus que de places. Est-ce que on a l'impression qu'on demande le ciel, je ne sais pas.
L'argument qui revient sans cesse et qui est sans doute même de mauvaise foi, c'est l'argument budgétaire. Est-ce que celui-ci vous paraît légitime aussi là au vu des derniers crédits budgétaires qui ont été affectés même en direction du ministère de la Justice?
Vous savez, pour le moment, il y a un rapport parlementaire qui a montré que auparavant, l'accompagnement à la sortie et l'accompagnement pour que les gens retrouvent, un jour les détenus sortent, qui retrouvent la vie dehors, était passé de 38% du budget à 18% et que c'était devenu le parent pauvre. Parce qu'il y a ces autres personnes qui sont les éducateurs, les conseillers de pénitentiaires d'insertion et de probation, qui devraient accompagner les détenus à la sortie et qui ne le peuvent pas tellement il y a détenus et tellement ils sont peu. Si vous voulez, il y a des tas d'incohérences dans notre politique pénitentiaire. Donc cette révolution carcérale qu'annonce le garde des Sceaux, je voudrais qu'elle s'applique à toutes les autres prisons, mais dans un autre sens. Je voudrais qu'on fasse sortir les gens. On a calculé, c'est FO Pénitentiaire qui a calculé ça. Si on retire un mois de prison, est-ce que c'est la mort de, que les gens sortent un mois avant la fin de leur peine, à condition qu'ils soient encadrés? On perd 7% de détenus, à savoir que on va perdre, si là on accordait un mois de grâce à chaque détenu, on perdrait 7000 détenus, c'est ça.
Valérie Dervieux, je reviens un instant sur ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Est-ce que ces quartiers, justement, transforment en profondeur ou non ce qu'on appelle régulièrement le sens de la peine, c'est-à-dire la raison d'être même du système carcéral et la fonction de la prison?
Le sens de la peine, c'est autre chose. Là, c'est les conditions de la détention. Le sens de la peine, c'est à un moment donné, vous êtes à caractère rétributif, si j'ose dire.
Le sens de la peine, c'est donner du sens à la peine. J'ai élargi effectivement la discussion.
Mais ça ne change pas le sens de la peine. Ça restaure le sens de la peine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on décide d'une peine de prison, quand on a passé les mesures alternatives, quand on a passé le bracelet électronique, quand on a passé les aménagements, et on est quand même la France le champion des aménagements de peine, quand les gens se retrouvent en détention, normalement, c'est pour, à un moment donné, d'abord ne plus continuer à faire des infractions, ensuite pouvoir bénéficier de formations qui leur permettent la désistance, s'ils le souhaitent, bien évidemment, et prévenir les risques. Donc on est complètement dans le sens de la peine. Ça ne rajoute rien, ça adapte les modalités à certaines personnes qui sont particulièrement dangereuses.
Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Simonneau?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, Valérie.
Ça restaure même le sens de la peine?
Non. Parce que je me demande toujours, qu'est-ce qu'on attend de la prison? Qu'est-ce qu'on attend tous de la prison? Que les gens soient punis, c'est tout à fait normal. Que les gens soient mis à l'écart, c'est normal aussi. Un temps, et puis après ils sortent. Qu'ils sortent un peu meilleurs. Qu'ils sortent en ayant, comme le veut la règle pénitentiaire, qui dit rapprocher le plus possible la vie dedans de la vie de dehors, pour permettre aux gens de réintégrer la société. Or, tu dis que... Vous dites que...
Vous pouvez continuer de vous tutoyer.
Merci,
exceptionnellement.
Merci. Tu dis que là, les conditions d'exécution de la peine, moi je ne crois pas du tout qu'elles soient indifférentes à la façon dont, au sens de la peine. Quand on exécute sa peine à 3 par cellule au milieu des vermines, que les violences entre surveillants et détenus montent, que les violences entre détenus montent, ne cessent de monter, que les suicides montent, parce qu'ils montent énormément. Il y avait 123 suicides en 2022, 157 en 2023. Les conditions sont épouvantables. Voilà. La population, surveillants et détenus qui vivent dans les prisons, sont complètement abandonnés par l'État. Là, il se trouve qu'on vous montre quelque chose qui est censé être mirifique. Moi, je ne sais pas du tout si ce sera mirifique. Ce que je dis, c'est qu'il faut porter notre regard ailleurs aussi. Et cette révolution carcérale, je le redis, j'aimerais que le ministre l'applique aux autres lieux.
Je voudrais vous faire remonter le temps en 1980 et on évoquait la suppression des QHS dans cette archive d'interactualité.
Philippe Maurice fait reparler de lui. Condamné à mort le 28 octobre 80, à la suite du meurtre d'un policier, il avait été gracié par le président Mitterrand. Or, à la prison de la Santé, mercredi, on l'a appris qu'hier, Philippe Maurice a tenté d'étrangler un gardien avec ses menottes. Il se trouvait dans un quartier de sécurité renforcé à Fleury-Mérogis, mais il avait été transféré provisoirement à Paris pour permettre l'aménagement de nouveaux locaux. Les quartiers dits de haute sécurité vont en effet disparaître. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, l'annoncera très prochainement. Il vient de recevoir le rapport d'une commission d'experts qui souligne le système arbitraire et inhumain dans les QHS. Cette commission propose que les détenus difficiles soient soumis à un régime d'isolement plus souple pendant une période de 3 mois, renouvelable une seule fois. Cela dit, au moment même où au ministère de la Justice, on se préoccupe de supprimer les QHS, l'incident provoqué mercredi par Philippe Maurice à la Santé pose tout de même le problème de la sécurité des gardiens.
Très très beau générique, il faut le noter. Valérie Dervieux, je reviens quand même sur cette notion de sens de la peine. Est-ce que ces quartiers de haute sécurité ne menacent pas tout de même la réinsertion de ces détenus, de ces narcotrafiquants? Est-ce qu'elle peut même risquer de l'entraver?
Ça dépend si vous parlez de la réinsertion dans le trafic de stupéfiants. Effectivement, la réinsertion dans le trafic de stupéfiants risque d'être rendue plus complexe. La réinsertion tout court, peut-être moins, s'ils n'ont plus la possibilité d'animer leur réseau et ils doivent trouver peut-être un autre sens à leur vie.
Dominique Simonneau, sur ce point-là.
Mais vous voyez, quand j'écoutais cet épisode avec Philippe Maurice, qui a tenté d'étrangler un surveillant avec ses menottes, il faut voir comment les gens, tels que Philippe Maurice alors, et tels qu'aujourd'hui les gros narcotrafiquants, nous apparaissent, nous, quand on va les visiter, ils sont suivis par 3 surveillants, ils sont entravés aux pieds, aux mains, et franchement, les surveillants qui sont chargés de nous les amener ou de les faire aller d'un endroit à l'autre dans la prison, on les appelle les Robocop. Ils sont harnachés des pieds à la tête. Ça m'étonnerait que ça se reproduise, une chose pareille. Cela dit, j'ai assisté à une agression sur un surveillant qui m'a marqué à vie.
Parce que?
Parce que c'était un détenu fou, qui était au quartier d'isolement. Le surveillant a regardé par l'œilleton, il a ouvert la porte et il s'est pris une bouilloire d'eau bouillante en pleine figure. Je vous assure que c'est quelque chose, c'est épouvantable. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce que faisait ce type-là? Ça, c'est tout le problème de la psychiatrie qui défaille totalement et qui envoie des gens très malades. Vous savez qu'on estime 30 à 35% le nombre de gens atteints psychiquement qui sont détenus. C'est-à-dire, c'est la prison sert d'asile maintenant.
Valérie Dervieux, je reviens sur la petite pique que vous a envoyée tout à l'heure Dominique Simonneau sur le fait que les magistrats n'allaient pas assez souvent en prison. Est-ce que vous estimez vous-même que c'est vrai, que vous ne visitez pas assez souvent ces lieux de privation de liberté?
Certainement, on peut beaucoup plus visiter, mais on va nous reprocher de pas assez bosser, de pas traiter nos dossiers, d'être en retard, la lenteur, l'encombrement, l'audiencement, la gestion, la connaissance des différentes professions. En fait, je vais pas reprendre le couplet, on nous reproche trop ou pas assez. Moi, je l'ai visité en tant que magistrat chargé, juge de l'application des peines, en tant que magistrat du parquet chargé d'exécution des peines, puisque en tant que juge d'instruction, en tant que président de chambre d'instruction, certainement pas assez. Mais à un moment donné, quand on reçoit les détenus aux audiences, on entend et on écoute ce qu'ils nous disent, on écoute aussi leurs avocats, on écoute aussi ce que disent les surveillants, on va sur place à l'occasion des visites, soit en garde à vue, soit voilà, et on se fait son idée, son avis. Tout à l'heure, on parlait du sens de la peine pour les personnes qui seraient dans ces quartiers, et puis Dominique parlait du sens de la peine pour tous les autres. Je crois qu'effectivement, on a un double effort à faire. L'effort de sécuriser les conditions de détention pour tous et de préserver les surveillants et les détenus de la détention générale, de la violence, des plus dangereux.
Merci à toutes les deux de cette discussion, de ce débat, d'un tout petit mot, Dominique.
Eh bien, je ne leur demande pas grand-chose aux magistrats. Une fois par an, visiter les cellules où ils envoient du monde.
Merci à vous deux, Dominique Simonneau, Valérie Dervieux.